Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de notre série sur les rapports du Sénat et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Madame Michèle André, sénatrice du Puy-de-Dôme, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame la présidente, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie.
Merci pour cette invitation. J'y suis très, très sensible et je suis heureuse de passer ce moment avec vous.
Je vous en remercie. Madame la sénatrice, vous avez été précédemment secrétaire d'État chargée des droits de la femme et aussi vice-présidente du Sénat.
Absolument.
Vous connaissez particulièrement bien les questions de justice et le milieu carcéral. Vous avez été, m'avez-vous dit, assesseur au tribunal pour enfants. La délégation du Sénat que vous présidez, je crois, depuis le 3 décembre 2008...
Une petite année, on va dire.
...a consacré son rapport d'activité 2009 aux travaux qu'elle a effectués sur le thème « Les femmes dans les lieux de privation de liberté ». Un sujet de société difficile et douloureux, sur lequel la délégation a effectué un travail de fond pendant plusieurs mois et a formulé 30 propositions qu'elle a adoptées à l'unanimité. Votre rapport retrace aussi les différentes activités conduites par la délégation en 2009 et rappelle les positions qu'elle défend. Avant d'aborder avec vous le sujet des femmes dans les lieux de privation de liberté, je souhaitais simplement vous demander de nous préciser brièvement, mais c'est important pour nos éditeurs qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des instances sénatoriales, quelle est la composition, quelles sont les missions et quel est le rôle de la délégation du Sénat aux droits des femmes ?
Oui, je crois que c'est très utile effectivement d'apporter cette précision. Vous le savez, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et social environnemental disposent toutes les trois d'une délégation identique. Donc notre rôle, c'est un rôle d'attention, de vigilance à tout ce qui concerne les droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans tous les travaux législatifs et qui nous oblige aussi à un contrôle du gouvernement, des actions du gouvernement dans tous les domaines, ce qui est très vaste, vous le verrez. Nous devons contrôler que l'égalité des chances, que l'égalité des hommes et des femmes est bien respectée. Donc c'est une délégation de 36 personnes. Elle existe depuis le mois de juillet 1999, donc elle a 10 ans. Et nous avons une obligation, un rapport annuel, une thématique que nous choisissons entre nous.
Ces 36 personnes, ce sont uniquement des femmes ?
Non, absolument pas. Nous avons quelques collègues masculins et nous y tenons beaucoup. Et nous avons fait un peu comme un sourire d'amusement. Ils sont en proportion ce que nous sommes nous-mêmes dans le Sénat. Donc ils sont 22%. Et nous sommes 22% de femmes au Sénat, vous voyez.
Et tous les groupes politiques sont représentés ?
Absolument, à la proportionnelle. Et l'étrangeté, c'est que je suis, moi, dans l'opposition et malgré tout, on m'a confié la présidence. Je pense que je dois cela à quelques années de vice-présidence du Sénat et peut-être mon expérience de ministre. Et en tout cas, nous avons une ambiance excellente dans cette délégation. Nous ajoutons notre travail à notre travail de commissaire dans une commission, ailleurs, obligatoire. Et nous faisons en sorte d'avoir des commissaires de toutes les commissions dans la délégation. Donc nous sommes 6 commissions et nous venons de toutes les commissions, avec peut-être plus de collègues qui viennent du social ou du culturel. Moi, j'avais beaucoup insisté pour qu'il y ait des collègues des lois. J'y ai moi-même siégé pendant longtemps. Et je suis moi-même à la commission des finances. Mais nous avons comme ça une espèce de vigie en permanence sur la totalité des travaux.
Voilà. Donc, vous avez un rôle de vigie dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je dirais un rôle d'aiguillon.
Absolument. Et nous pouvons demander à être saisis pour avis sur des sujets qui nous paraissent importants pour les femmes. Nous l'avons demandé récemment pour la question particulière des régimes de retraite des mères de famille. Nous l'avons demandé, obtenu auprès de la commission des lois, sur la question des modes de scrutin des conseillers territoriaux. qui vont arriver au Sénat et qui sont toute la grosse
dans
batterie
de
textes dans le cadre de la réforme territoriale. Et nous pouvons interroger un ministre avec des questions longues, avec des questions cribles, sur un sujet qui nous paraît important. Dans le passé, nous l'avons fait sur la violence dans les couples. Et j'ai en attente une question sur la contraception, l'IVG, suite au rapport de l'IGAS, et la question du racolage passif et de ses effets néfastes sur la situation des femmes prostituées. Voyez, notre gamme d'intervention, elle est tous azimuts. Et nous nous intéressons aussi bien à l'égalité des salaires des hommes et des femmes, à la question de la dignité, à la question de la citoyenneté, la panoplie habituelle qu'il faut encore déployer quand on s'occupe de droits des femmes.
Quels ont été les principaux thèmes de travail de la délégation en 2009 ?
Eh bien, en 2009, nous avons travaillé essentiellement sur ce rapport de la prison. Ça demande beaucoup d'auditions, ça demande des visites, donc ça occupe énormément. Et ça demande une mise en synthèse de tout cela ensuite, puis un échange entre nous. Nous avons travaillé sur les retraites des mères de famille, nous avons travaillé puis fait connaître nos positions en communiqué de presse de façon régulière sur tous les sujets qui peuvent arriver, y compris au niveau international.
Tout à fait, je confirme puisque je suis moi-même destinataire de ces communiqués de presse. Et pour 2010, quels
2010,
sont les
nous travaillons
axes de travail ?
Pour plusieurs mois, nous sommes sur la question de la réforme territoriale, donc du mode de scrutin des conseils territoriaux, et nous auditionnons actuellement des constitutionnalistes, ceux qui connaissent le mieux la problématique de comment le Conseil constitutionnel va observer la difficulté qui pourrait survenir d'un choix de mode de scrutin qui défavoriserait éventuellement la parité. En fin d'année, nous verrons à travailler sur un thème sans doute un petit peu moins lourd, mais celui-là nous occupe énormément.
Alors pourquoi la délégation a-t-elle décidé de s'intéresser en 2009 au thème des femmes dans les lieux de privation de liberté ? Et pouvez-vous nous préciser le champ de cette étude qui va au-delà de la prison en fait ?
Absolument. Nous avons considéré tout ce qui était privatif de liberté. Donc si on résume, la prison naturellement, maison d'arrêt, centre pénitentiaire, les centres de rétention administrative dans lequel se trouvent des familles, des femmes étrangères en raccompagnement hors des frontières. Et ensuite, la question des contraintes d'hospitalisation de la psychiatrie, dans lequel, hélas, nous trouvons beaucoup de femmes. Si dans la prison, c'est moins, c'est beaucoup moins, ça n'est pas le cas en psychiatrie. Pourquoi nous avons choisi cela ? Ben, nous avons eu un long échange entre nous et nous avons considéré que c'était un thème qui n'avait jamais été abordé et nous étions à l'époque sur la réforme de la loi pénitentiaire. Donc nous avons pensé qu'il était utile d'apporter un petit élément.
Un regard
spécifique sur la situation des femmes dans les lieux privatifs de liberté ou sur les conditions de travail aussi des personnes qui y encadrent, puisque nous avons aussi dialogué beaucoup avec les personnels et les syndicats.
Justement, vous rejoignez, vous précédez ma question. Comment avez-vous procédé pour réaliser cette étude ? Qui avez-vous auditionné ? Et quels lieux avez-vous visité en France et aussi à l'étranger ?
Absolument. Vous savez, là, on est dans le classique du travail parlementaire. L'audition, c'est une personnalité connue pour ses travaux, pour ses positions, et qui peut venir devant le Sénat, devant la délégation réunie en entier, en audition publique.
Ce sont des experts.
Ce sont des experts, ce sont des personnes qui s'intéressent à un sujet. En la matière, nous avons eu des personnalités remarquables, comme M. Delarue, dont c'est la mission
qui est contrôleur général
des prisons. Oui. Nous avons auditionné Florence Aubenas, qui est la présidente de l'Observatoire international. Nous avons auditionné la défenseure des enfants sur la problématique des femmes en prison quand elles ont un enfant.
Madame Dominique Versini.
Nous avons auditionné également des personnalités, bien sûr, de l'administration pénitentiaire, naturellement, parce que nous considérons que c'est eux qui ont les réponses, et puis des personnels de l'administration pénitentiaire. Et nous avons vu également des médecins qui nous ont parlé de la difficulté de suivre les personnes, en ce qui concerne le nombre parfois, mais nous y reviendrons certainement.
Et vous vous êtes rendu sur le terrain.
Alors nous sommes rendus. J'ai souhaité, moi je connaissais personnellement, je l'avais visité comme ministre et j'avais vu l'excellente qualité du travail d'accueil et de réinsertion qui se menait au centre pénitentiaire de Rennes, qui est un des grands centres de prison de femmes sur les longues peines. C'est-à-dire, dès lors que vous avez été jugé et que vous avez une longue peine à accomplir, il y a peu de centres de cette nature. Nous avons visité Rennes et à cette occasion, je me suis rendu compte que la première rencontre avec l'univers de la prison, j'avais des collègues nouvelles élues qui n'avait jamais franchi le pas d'une porte, c'est toujours un peu impressionnant. Et donc, il faut arriver à poser son appréhension personnelle pour comprendre comment se passent les choses et avoir une rencontre sereine avec les femmes en prison ou avec le personnel qui les encadre. Donc, nous avons visité Rennes. Nous avons visité également, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de questions là-dessus, le dépôt du tribunal de Paris et la souricière. Et nous en reparlerons sans doute au moment des questions.
La souricière, pour nos auditeurs.
C'est l'espace dans lequel sont en attente les personnes qui sont en comparution au tribunal, aux étages supérieurs, et qui doivent rester là une journée entière en attendant d'être appelées pour être auditionnées elles-mêmes dans le tribunal. Nous y étions à l'époque, donc c'est hommes et femmes, là, je vous les dis distinctement. Nous y étions à l'époque d'un jugement un peu sévère, avec des incidents, en fait, des choses un peu pénibles. Et nous avons choisi d'aller. Monsieur Delarue nous avait dit qu'il y avait dans d'autres espaces de l'Union européenne des endroits assez exemplaires. Et nous sommes allés en Espagne. Nous sommes allés à la prison d'Aranjuez,
qui se trouve
à côté de Madrid, sur le plateau castillan, là, cet immense plateau désertique. Ceux qui connaissent comprendront. Et nous avons voulu voir une expérience qui est assez unique. C'est celle d'une détention en mixité, c'est-à-dire une femme condamnée, un homme qui est condamné aussi, vivent ensemble et peuvent prendre en charge leurs enfants avec des temps de formation extrêmement intenses. Nous avons vu là une expérience extrêmement riche.
Avez-vous constaté, malgré la variété des lieux de privation de liberté que vous venez de nous décrire et malgré la diversité de situations des femmes, des points communs concernant la place et le traitement de ces femmes? Est-ce qu'il y a une problématique commune à tous ces lieux de privation de liberté par rapport à la question des femmes?
Oui, je pense qu'au fil des auditions, au fil des rencontres, au fil de la conversation, on s'aperçoit qu'en fait, dans beaucoup de ces espaces, ce sont des petits espaces femmes à l'intérieur de grands espaces masculins. Donc la conception même des lieux, de la prise en charge, et totalement sur un schéma masculin, rapport de force. C'est très clair. Et nous voyons bien, lorsque nous sommes dans un espace uniquement féminin, combien la prise en charge est plus spécifique, plus attentive. C'est ainsi qu'à Rennes, nous nous sommes rendus compte qu'on appelle les prisonnières « madame ». Il n'y a pas ces familiarités parfois qui s'installent et qui sont peut-être difficiles à vivre. En fait, c'est cela. 4% seulement de femmes en prison. Réjouissons-nous. Je m'en réjouis encore. J'espère que nous n'arriverons jamais à la parité et que, au fond, cette question pose la problématique de si nous avons de grands centres qui seraient particulièrement aménagés, ça éloigne considérablement la personne de sa famille et de son lieu de vie. Donc, dans les maisons d'arrêt, d'une manière générale, nous avons un espace féminin à l'intérieur d'un grand espace dédié aux hommes. Et toute la formation des gardiens est faite un peu sur le schéma masculin. Donc nous demandons du spécifique, de l'attention, qui en fait a un objectif simple, c'est une préservation d'intimité. Au fil du temps, c'est évident.
Alors, donc la caractéristique, c'est un manque de prise en compte de la spécificité des femmes
absolument.
Dans l'ensemble de ces lieux.
Nous avons même découvert qu'il n'y a pas pratiquement de statistiques. Donc lorsque nous n'avons pas de statistiques, nous avons du mal à recréer les choses d'une manière plus attentive. Et la question qui est particulièrement bien prise en compte, mais nous y reviendrons sans doute aussi, c'est que faire avec les visites des enfants, avec la préservation du lien familial qui est tellement important pour les femmes qui sont dans les lieux où elles n'ont pas de liberté et dans les prisons.
S'agissant des prisons, quelles sont les caractéristiques des femmes incarcérées? Est-ce qu'il y a un profil type, une espèce de portrait robot que l'on pourrait dresser? Qui sont ces femmes incarcérées?
Hélas, souvent, des femmes à parcours de vie chaotique. Il n'est pas rare, lorsqu'elles parlent de leur parcours, de voir qu'elles ont été des enfants parfois maltraités, qu'elles ont elles-mêmes subi des violences, qu'il y a une espèce de chaos qui peut s'arrêter sur un acte brutal. Sur les longues peines, c'est particulièrement lourd. C'est de l'infanticide, du meurtre, des choses lourdes qui font 15 ans, 20 ans de prison. Mais souvent, c'est presque la fin d'un parcours chaotique dans lequel on voit bien que ce parcours de femme a été lui-même très, très difficile. Donc, beaucoup de violences autour et certaines d'ailleurs se reconstruisent dans cet espace-là. Et elles retrouvent une confiance en elles, une capacité à se former. Vous voyez, il y a beaucoup de choses extrêmement fortes qui se passent à ce moment-là et qui sont extrêmement utiles.
Et quelle est la durée moyenne d'incarcération?
Les centres pénitentiaires, c'est longue peine. Longue peine, vous êtes à 10 ans, 12 ans, 15 ans, avec de l'atténuation, mais vous êtes sur de la longue peine. Vous êtes sur des choses lourdes. Vous retrouvez là des femmes qui ont assassiné un homme, un mari. C'est souvent lié à du familial tout de même, ou qui ont, n'ont pas pu vivre avec leurs enfants. Vous voyez, des choses comme ça, très très dures, très dures, objectivement. Et puis après, vous avez en maison d'arrêt des femmes qui exécutent des petites peines pour du trafic de drogue ou pour
des vols,
des choses qui sont... un petit peu du passeur. Vous savez, la drogue, c'est le passeur, ce qu'on appelle les mules, et qui sont extrêmement nombreuses en Espagne, ce qui nous a frappé. L'endroit où nous sommes allés, modèle, ce sont souvent des jeunes femmes étrangères d'origine latino-américaine et qui sont les passeuses de drogue, en fait, et qui sont jeunes avec des enfants. Elles sont 8% en Espagne, femmes en prison.
Mais on les trouve en France aussi, ces passeuses.
Oui, mais moindre. Mais elles y sont tout de même également.
Donc, en fait, leurs profils, ce sont des femmes en détresse sociale.
Ce sont des femmes, pas toutes, mais à histoire tourmentée, à histoire difficile tout de même. Mais je pense qu'il faut être simple aussi. On peut se dire que n'importe qui peut se retrouver dans un crime passionnel ou dans une erreur de vie d'appréciation. Ça rend modeste et humble.
Merci pour ce paysage. Je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre cette émission avec Madame Michèle André, sénatrice, dans quelques instants.
Jacqueline de Romy, de l'Académie française, partage avec vous son amour pour le grec ancien à travers plusieurs émissions sur Canal Académie. Téléchargez dès maintenant Thucydide et La construction de la vérité en histoire, Le sourire innombrable, Dans le jardin des mots ou encore Les roses de la solitude, sans oublier une émission en habit vert consacrée à son parcours. Toutes ces émissions sont disponibles librement sur le site de Canal Académie.
Madame, Monsieur, nous sommes sur l'antenne de Canal Académie où nous recevons aujourd'hui Madame Michèle André, sénatrice, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et nous nous entretenons aujourd'hui du rapport 2009 de la délégation qui porte sur les femmes dans les lieux de privation de liberté. Madame la sénatrice, vous évoquez dans le rapport 2009 de la délégation ce que vous appelez une égalité des malchances entre les hommes et les femmes en prison. Pourquoi ? Est-ce que les femmes souffrent plus que les hommes en prison ?
Je ne suis pas certaine que c'était sur cette affaire de souffrance. Parce qu'on peut dire que pour quelques personnes que ce soit, l'arrivée dans un espace privatif de liberté est un choc. Après, lorsque vous voyez la vie qui s'installe, la vie ordinaire, au fond, la relation avec les gardiens, avec les responsables, avec ceux qui vous amènent à une formation, on s'aperçoit que c'est un autre univers qui se crée, mais humain, et qui peut être extrêmement protecteur aussi et porteur. Mais l'égalité des malchances, c'est parce que nous nous sommes rendus compte parfois dans cette situation où des quartiers de femmes sont dans des grandes prisons d'hommes, lorsqu'il y a moins de moyens, lorsqu'il n'y a pas par exemple d'espace sportif, les femmes ne sont pas dans l'espace sportif, on ne les laisse pas sortir. Lorsqu'il y a des formations, elles sont moins dans la formation, il n'y a pas les ateliers, il n'y a pas le nombre. Lorsqu'il y a moins d'heures de médecins, elles sont moins visitées sur le plan médical, elles sont moins suivies. Donc c'est véritablement la malchance de la vie et d'être là. Et vous ajoutez les restrictions qui se font souvent en moins. C'est ainsi que nous avons, nous, estimé que nous n'avons pas vu d'endroit où, sauf les centres de détention, où l'accès au sport est possible pour les femmes. Or, nous savons bien que c'est un élément d'équilibre et que pour beaucoup de personnes en prison, pouvoir sortir un peu, faire un sport est une bonne chose. C'est dans cette condition-là que nous avons considéré que leur condition est dure, leur souffrance est dure. Et le leitmotiv pour celles qui ont des enfants, c'est comment je vais retrouver mes enfants. Et ces enfants deviennent pour le coup tout pour elles, ce qui est disproportionné également. Donc c'est comment vont-ils venir me visiter ? Est-ce qu'ils vont venir encore ? Quelqu'un va-t-il me les conduire pour que je puisse les voir ? Comment vont-ils grandir ? Une espèce d'idéalisation d'enfants aussi, qui est aussi dangereuse au moment où il y a sortie.
Comment notre pays traite-t-il la maternité en prison ? Et comment peut-on arriver à préserver les liens familiaux en conciliant à la fois donc, l'intérêt de la mère qui est détenue et l'intérêt supérieur de l'enfant ?
Il y a plutôt de belles expériences. Pour une femme qui accouche en prison, vous savez qu'il y a la possibilité qu'elle garde auprès d'elle son enfant pendant
18 mois,
avec une attention particulière, une organisation un petit peu de crèche, des sorties pour l'enfant, un univers qui se reconstruit un peu en douceur, au fond. Et vous avez des espaces comme Fleury-Mérogis, où le Conseil général a investi, avec la PMI, des moyens pour que la crèche soit totalement en mesure de prendre en compte les enfants à côté des femmes et de leur réapprendre parfois les gestes de l'éducation qu'elles n'ont pas toujours connus ou qu'elles n'ont pas, qu'elles ne maîtrisent pas.
Mais la crèche est-elle intégrée à
Absolument.
L'établissement ?
Elle peut être intégrée.
Appelle les quartiers nourrices
ou... Oui, on peut dire cela ainsi. Et il y a aussi la possibilité pour l'enfant d'être à l'extérieur et de revenir auprès de sa mère. Toute la question, c'est comment s'entoure par les professionnels cette présence du bébé avec la mère et comment se fait la séparation lorsqu'elle doit se faire, parce que parfois, la peine est plus longue que le temps des 18 mois du bébé, qui n'aura connu comme univers de découverte pratiquement que cet espace fermé. Donc c'est comment permettre à l'enfant d'évoluer, quelle que soit la situation de sa maman. Pour ce qui concerne la préservation des liens familiaux, nous voyons aussi beaucoup d'attention des quartiers spécifiques où les familles peuvent venir pendant un jour ou deux jours entiers, recréer un peu un univers familial où la femme peut cuisiner, peut recevoir au fond les siens dans un univers fermé, mais un univers adapté. Et donc, beaucoup d'attention est portée à tout cela. Nous avons dans l'administration pénitentiaire des gens remarquables qui réfléchissent à cela et qui, au fond, veulent aller sur une notion de prison, lieu de réinsertion, lieu de reconstruction. C'est très important. C'est ce qui nous a frappé dans la visite en Espagne, la façon dont, curieusement, ils posent la prison comme c'est un espace dans lequel on va reconstruire. On va aller à l'école, on va se former, on va apprendre à ces personnes à sortir avec une chance de plus. Et non pas dans l'espèce de punition immanente, très prégnante en France, qui souvent, sans doute, inconsciemment, fait que l'humiliation, l'absence de dignité va avec. C'est là où nous avons un vrai combat de fond à mener, une évolution de mentalité importante.
Votre rapport dénonce l'absence de respect de la dignité des femmes détenues. Oui. Et qu'avez-vous constaté dans les prisons ?
Mais ce qui se passe dans les prisons, c'est les fouilles à corps répétées. Et pour beaucoup de femmes, se mettre nue, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est simple pour un homme, mais il y a un côté là pénible et toute la question des examens médicaux qui sont parfois exécutés en présence d'un gardien. Tout le monde sait bien qu'une femme qui est en train d'accoucher ne va pas se sauver, elle n'a pas besoin de menottes. Vous voyez, des choses qui sont au fond des choses simples. Les questions de...
Des choses de bon sens, pratiquement.
Oui, peut-être. Alors, c'est vrai que ce
pour
sont des personnes... L'accouchement, écoutez, une femme qui accouche, tout le monde sait qu'elle ne va pas s'en aller en courant. Enfin, on n'a jamais vu ça de la vie et on ne le verra pas. Donc, il y a parfois un trop dans la sécurité qui peut être un problème. Et nous avons vu des femmes qui renoncent à se faire soigner parce qu'elles souffrent d'être accompagnées tout le temps, vous voyez, comme si elles n'étaient plus des adultes. C'est là le point de difficulté extrême. Et dans la question de l'intimité, vraiment, les femmes sont particulièrement sensibles. C'est vrai. Et nous avons plaidé cette intimité que nous réclamons d'une manière habituelle pour toute notre vie, toute.
Certains pays européens, et notamment l'Espagne, où vous avez visité, vous nous l'avez dit, la prison d'Aranjuez, près de Madrid, ont mis en place des approches originales, notamment dans le domaine de la mixité, des relations parents-enfants. Est-ce que ces approches, ces démarches sont transposables en France ?
Oui, je crois que oui. Et il me semble peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'expérimental en la matière, sans prendre de risques. C'est une idée...
À quoi pensez-vous, par exemple ?
Cette affaire-là, les personnes ont une sanction parce qu'elles ont manqué à la loi. Et c'est naturel qu'elles aient une sanction et un enfermement. On n'est pas pour autant obligé de les détruire et de détruire un couple ou d'humilier à ce point et de sortir de la société les personnes. Parce qu'ensuite, elles vont avoir besoin de retrouver un espace. Il faudra sortir de cet endroit qui, à un moment, peut ressembler à un cocon protecteur et qui montre l'extérieur comme un inconnu dangereux.
Et en Espagne, alors, pouvez-vous nous citer un exemple de choses que vous souhaiteriez voir transposées dans les prisons françaises ?
L'ouverture, en fait, quelque part. Une construction de bâtiment qui est ouverte avec une grande vue sur le ciel. Vous voyez, des espaces très sécurisés, très sécurisés. Ne nous trompons pas, la prison d'Aranjuez, elle a des secteurs dans lesquels ils ont les terroristes basques qui ont fait mourir beaucoup de monde. Elle est très sécurisée à l'extérieur. Mais quand vous circulez, vous n'avez pas une impression d'enfermement. Vous avez de l'espace, vous avez une vue sur le ciel, vous n'avez pas ce côté brutal de mur qui voudrait enfermer aussi le ciel. C'est presque un état d'esprit. Et cet état d'esprit de À partir de maintenant, il faut apprendre à devenir un adulte plus responsable. Il faut aller à l'école, il faut construire des choses. Quand vous sortirez, vous devrez avoir acquis tout cela. Et donc, à un moment, nous nous sommes trouvés dans un espace avec des parents, avec un petit enfant ou des petits-enfants. On serait cru dans une cour d'école maternelle, au fond. Alors, moi, je ne suis pas angélique du tout. Les gens qui sont là ne sont pas là par hasard. Et ne nous trompons pas sur la question. Mais construire avec des parents une relation à l'enfant qui devra bien intégrer qu'il a eu des parents dans cette situation et qui peut en souffrir de façon lourde et longue, c'est tout de même lui permettre de créer ses liens et de devenir lui-même un adulte. Vous voyez, c'est là le carrefour important. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des Espagnols à ce niveau et leur intelligence et leur humanité. Voilà, disons les choses comme ça. Leur humanité simple. Parce que c'est pareil, les grilles sont fermées. Il n'y a pas d'amateurisme du tout, du tout. Et ils ne pourraient pas se permettre. Mais comme une impression de, allez, maintenant, vous êtes là, vous allez y rester quelques années. Mais pendant ce temps, profitons de la circonstance pour...
Et quelles sont vos recommandations pour améliorer les conditions de réinsertion des femmes après leur détention ? Puisqu'elles ne vous paraissent actuellement, je crois, pas suffisantes.
Enfin, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de formation à l'intérieur. Donc, d'apprentissage, puisque dans beaucoup de nos maisons d'arrêt, nous avons des enseignants qui entrent, qui se chargent dans l'enseignement. C'est un temps d'enfermement où vous pouvez travailler avec des bibliothèques, avec une relation à l'extérieur par l'imaginaire, puisque vous ne pouvez pas y aller avec votre liberté. C'est profiter de tout cela et faire en sorte qu'on apprenne des métiers. Parce que ces femmes-là, quand
mais
elles vont
sortir... Mais des vrais métiers, des métiers utiles.
Oui, qui peuvent être de la centrale d'appel. Nous avons vu un très bel exemple à Rennes. Il y a un centre d'appel qui travaille pour une société française. Donc, qui peut vous appeler demain pour vous interroger sur je ne sais quoi. Et personne ne soupçonnera.
Et
donc,
certaines
c'est des métiers.
Personnes, je crois, à Rennes, travaillent aussi pour l'INA, l'Institut
Absolument,
National de l'Audiovisuel.
Elles refont les films, elles nettoient. Non, c'est tout à fait intéressant. Donc, c'est un apprentissage. Parce qu'au fond, et puis ne pas faire des sorties sèches comme ça d'un coup. On vous dit, vous sortez tout à l'heure, préparez la sortie. Je pense que là, il y a des SPIP, des services particulièrement intéressants dans nos prisons qui permettent de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas tout d'un coup, après quelques années d'enfermement total, dans un monde que l'on ne connaît plus, dont on ne connaît plus les codes et le quotidien, avec l'impression d'avoir été à l'écart de la société pendant toutes ces années. Donc la préparation à la sortie nous paraît capitale.
Un projet de réforme de la garde à vue est annoncé en 2010. S'agissant des femmes, quelles sont les préoccupations spécifiques de la délégation en matière de garde à vue ?
Nous sommes là dans l'ordinaire aussi, mais nous sommes dans la demande de respect de la dignité de la personne, de l'intimité de la personne. Nous pensons qu'il faut savoir discerner lorsqu'on met une personne en garde à vue. Et il y a beaucoup trop de garde à vue qui échappent à tout contrôle de justice, sur lequel, objectivement, nous sommes vent debout et nombreux, nombreuses. Mais là, il me semble que de temps en temps, demander à une femme d'enlever son soutien-gorge, ça nous paraît beaucoup. Voilà, c'est comme enlever des lunettes lorsque vous avez besoin de lunettes. C'est comment pouvez-vous vous présenter propre, digne, pour signer un document si vous n'avez pas votre propre dignité personnelle. Donc, nous dirons cela au moment où le projet de loi, parce qu'ils vont venir, il y a beaucoup de propositions de loi qui ont été déposées. C'est le hasard que notre rapport soit sorti au moment où cette question se pose d'une manière publique, avec une opinion publique qui commence à se dire « Si demain je vais en garde à vue, comment on va me traiter ?» commence à s'inquiéter.
Oui, les médias relaient beaucoup.
Les médias relaient beaucoup des situations cette question, difficiles. Voilà. Et pour les femmes, c'est la question de l'intimité. Qu'est-ce que vous voulez, les fouilles à corps ? C'est pas drôle. Beaucoup de gens prennent des avions, s'aperçoivent déjà que poser les chaussures, poser les bracelets, poser tout ce que vous avez sur vous, ça devient de plus en plus problématique. Et là, vous êtes libre. Ça va durer quelques minutes. Donc, c'est comment vous êtes humilié parfois. C'est la question là et du discernement qui est nécessaire.
Parmi les 30 propositions de votre rapport, très intéressantes, toutes certainement, adoptées à l'unanimité, c'est important, je crois, de le souligner. Quelles sont celles, au fond, auxquelles vous tenez le plus ?
Certainement celles qui touchent à la dignité. Toutes celles qui touchent à la dignité de la personne. Vraiment, qu'elles touchent l'hôpital psychiatrique, qu'elles touchent le centre de rétention dans lequel une famille est en attente de raccompagnement, le fait de permettre à une femme de pouvoir être propre et de pouvoir être en fierté d'elle-même malgré tout et dans une situation qui est quand même une situation très très pénible, beaucoup. Et puis la politesse des gens qui sont là, on n'est pas obligé de jouer au boxeur ou au matamor pour montrer que l'autre a fait une erreur de parcours, qu'il doit payer sa dette à la société, on n'est pas obligé en plus. de le traiter mal ou de le faire vivre dans la saleté. Donc nous tenons beaucoup à tout cela. Et à la formation. La formation et les espaces à préserver pour préserver à la fois un espace d'intimité avec les enfants quand ils viennent, et il faut qu'ils continuent parce que la vie continuera aussi. Tout cela, la qualification des gens, l'attention humaine en fait, une espèce d'évolution de mentalité profonde.
Et certaines de ces propositions en fait devraient pouvoir être adoptées rapidement puisqu'elles ne coûtent pas grand-chose. Appeler quelqu'un madame,
ça ne coûte rien.
Et ça peut être fait dès demain.
Faire en sorte qu'on ait un téléphone qui ne soit pas dans un grand hall où tout le monde entend ce que vous dites. C'est bien, vous voyez, des choses comme ça, installer un téléphone dans un endroit ou l'autre, ça n'est pas très difficile. Faire attention, au fond, à l'autre en humain,
quel que soit l'autre.
Respecter l'autre d'une manière générale.
Madame la sénatrice, Madame la présidente, quelle suite attendez-vous au rapport de la délégation à court et à moyen terme ?
À tout moment, lorsqu'arrive un projet de loi, c'est un outil pour entrer des préconisations, pour parfois présenter des amendements, pour garder l'attention là-dessus. Nous apercevons au fil du temps que sur l'égalité professionnelle, sur beaucoup de dispositions, nous nous servons de ces rapports pour en faire notre miel d'alimentation du travail parlementaire et des éléments de contrôle. Et c'est très, très important.
Le travail du Sénat est comme toujours très précieux. Donc j'invite tous nos auditeurs à écouter les différentes émissions sur les rapports du Sénat sur le site de Canal Académie. Vous pourrez retrouver le rapport de Madame Michèle André de la délégation en ligne sur le site du Sénat, www.sénat.fr, avec lequel Canal Académie est en lien. Donc bonne écoute de ce rapport, bonne lecture. Et nous aurons, j'espère, Madame la Présidente, le plaisir de vous retrouver une autre fois pour évoquer d'autres sujets sur l'antenne de Canal Académie.
Avec très grand plaisir. Merci à vos auditeurs. Et sachez que le 8 mars, donc le jour des femmes, mais maintenant nous savons faire durer le mois, le jour des femmes, un mois entier, nous avons, nous au Sénat, un très beau colloque international sur les problématiques des mariages forcés et de certaines pratiques qui sont des pratiques difficiles à admettre sur le territoire.
Et ce colloque donnera lieu sans doute
à une publication
et nous vous en tiendrons informés. Merci.
Merci à vous.
Merci, madame.
Au revoir.